Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis un peu gênée parce que je vous vois très mal. Donc j'ai juste un flou comme ça à cause des spots. Mais donc le sujet de ces journées, c'est sur la matière. Donc je vais vous parler de la matière picturale et particulièrement la matière picturale de Claude Monet et de sa série des cathédrales. Donc là, je vous donne déjà une image d'une horloge d'une cathédrale qui est dans une collection privée. Je suis restauratrice de peinture et les restaurateurs, qu'ils soient des restaurateurs de peinture ou d'autres sur d'autres matériaux, s'intéressent toujours à la matière de l'œuvre et ils s'interrogent sur le choix des matériaux, leur mise en œuvre et leur évolution. Donc, dans le domaine de la restauration des peintures, on distingue habituellement en France, particulièrement en France, pas tellement dans les pays étrangers, dans les autres pays, on distingue le support de la couche picturale. Donc le support, c'est ce sur quoi la peinture est appliquée. Et la couche picturale comprend les différentes strates de l'image, donc la préparation, les couches colorées et le vernis. Donc moi je suis restauratrice de peinture spécialisée dans la couche picturale des œuvres et je travaille essentiellement pour les institutions muséales et actuellement principalement pour le musée d'Orsay. Et c'est à cette occasion que j'ai pu observer 5 cathédrales qui sont conservées au musée d'Orsay. Au moment de l'exposition de Monet en 2010, ces cathédrales sont passées dans les ateliers de restauration pour vérifier leur état. Et là, je me suis rendu compte que ces 5 tableaux étaient très différents, avaient un aspect de matière très différent. Ce n'était pas seulement les moments, l'atmosphère qui changeait, mais Monet ne les a pas travaillés de la même manière. Du coup, ça m'a interpellée, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire une recherche un peu plus poussée sur cette série. Et au départ, ce qui m'intéressait, c'était de voir justement l'évolution des matériaux et de voir cet ensemble qui a été peint au cours pendant un temps assez réduit et de voir avec toutes les histoires différentes comment les matériaux avaient évolué. Et finalement, j'ai réussi à avoir une bourse à l'Université de Rouen, une bourse doctorale pour mener ce projet à bien. Je n'ai pas tout à fait terminé, mais ça va bientôt arriver. Et donc, je suis partie dans différents pays du monde où sont les cathédrales pour voir leur face et leur revers. Donc comme je suis restauratrice, c'était assez simple pour moi de faire cette observation et les conservateurs responsables de ces œuvres m'ont permis ont décroché les tableaux et j'ai pu les voir donc dans des bonnes conditions. Donc vous allez voir, là je vais vous défiler beaucoup d'images sur cette série et de tableaux qui sont donc répartis dans le monde. J'ai eu aussi la chance l'année dernière de restaurer la cathédrale, une des cathédrales du musée d'Orsay, le portail vu de face dont on reparlera tout à l'heure, et qui était la seule des 5 cathédrales conservées à Orsay qui était recouverte d'un vernis posé très peu de temps après que Monet l'ait peint, au moment sans doute où il est arrivé, où le tableau est arrivé au musée du Luxembourg en 1907. Et donc c'est un vernis très jaune que j'ai allégé. Et je vous conseille vraiment d'aller voir les 5 cathédrales du musée d'Orsay parce qu'elles sont très, très belles et celle-là a beaucoup changé. Je vais vous présenter la série. Donc Monet a peint cette série des cathédrales en 2 campagnes, une première en hiver, dans l'hiver 1892, et une seconde, il est retourné à Rouen et il a peint pendant les mêmes mois en 93. Il a repris ses toiles à Giverny, il les a signées 1894 et il en a exposé 20 chez Durand-Ruel en 1895. Vous avez peut-être pu voir certains ensembles de ces cathédrales à une première exposition en 1994, au centenaire de cette série à Rouen, où 15 étaient exposées, et également plus récemment, en 2010, également à Rouen, où 11 ont été exposées à l'exposition Une ville pour l'impressionnisme. Donc, dans son travail sur les séries, principalement les meules, les peupliers et puis les cathédrales, Monet étudie comment un même motif se transforme et prend différents aspects selon l'atmosphère dans laquelle il se trouve. En choisissant la cathédrale de Rouen, Monet se lance un véritable défi dans la mesure où son sujet est une surface ajourée et complexe, composée d'un même matériau. L'architecture gothique présente des plans obliques, des enfoncements dans lesquels les jeux d'ombre et de lumière sont particulièrement subtils. Du matin au soir, selon les atmosphères liées à l'heure et au climat, Monet va donc chercher à capter les intensités lumineuses renvoyées par cette surface. Donc, pour comprendre ce qu'apporte la matière des œuvres dans l'étude du processus créateur, on va commencer par voir de quoi cette matière est composée. Donc, Monet, tout au long de sa carrière, finalement, utilise des matériaux de très bonne qualité, même quand il était assez pauvre, et il a toujours soigné ses matériaux, et sa technique est relativement simple. Il utilise des toiles, très peu d'autres supports, des toiles qui sont tendues sur châssis, sur des bons châssis à clé, et des toiles qui sont déjà enduites par une préparation. Ses couleurs sont en tube, et il ne vernit pas ses peintures. Avant 1890, les préparations de Monet peuvent être légèrement colorées, comme on en trouve beaucoup au 19e, mais à partir de 90, les préparations sont blanches. Donc toutes les préparations des cathédrales sont blanches. On a gardé au musée Marmottan, le musée Marmottan a des petits carnets de dessins de Monet qui sont vraiment tout petits et sur lesquels il dessine rapidement des motifs qu'il aimerait peindre. Et donc là, on a trois vues de la façade de la cathédrale de Rouen qu'il a dû faire donc juste avant de commencer sa mise en peinture. Mais il ne reporte pas ce dessin sur la préparation. Certains peintres, sur la préparation, commencent à dessiner au fusain ou au crayon pour mettre un peu les masses et les volumes, et tandis que Monet, généralement, commence directement à l'huile. Donc on ne retrouve pas de dessin sous-jacent sur la préparation. Deux cathédrales qui nous sont parvenus peuvent être considérées comme inachevées. L'une est signée mais pas datée et on suppose, celle qui est là, que la signature a été posée assez tardivement. Et l'autre a, comme vous le constatez sur votre... Je vais peut-être prendre un micro parce qu'il faudra que je vous montre un peu directement. Vous voyez, vous m'entendez là ? Donc là, vous voyez un petit cachet noir qui est un cachet apposé par le fils de Monet, Michel Monet, au moment où il va léguer sa collection à l'Institut. Donc ce n'est pas la signature de Monet, elle a été posée par son fils. Donc ces deux cathédrales sont considérées comme inachevées et ça va être très intéressant pour nous de les étudier parce qu'on va pouvoir comprendre comment Monet démarre sa peinture. Donc vous voyez là un détail, donc pris, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien parce que la chapelle est encore un peu éclairée, mais c'est dans les arcades qui sont sur votre gauche, on voit ce détail où l'on voit nettement d'une part la préparation, bon, elle est un peu jaune mais parce qu'elle a jauni, mais au départ elle était beaucoup plus blanche, donc vous voyez la trame de la toile et la préparation blanche, et une première série de coups de pinceau assez dilués que Monet pose en premier pour placer ses formes. Et sur ces premières touches, généralement faites avec un pinceau, une brosse assez large, il pose d'autres touches qu'il superpose et qui peuvent être déjà très empâtées, comme vous pouvez le constater sur l'empattement qui est horizontal. Et donc c'est sa manière de faire. Dès le début, il va utiliser des couleurs assez en relief. On voit également sur cette peinture qui donc est au musée Marmottan, que vous avez peut-être déjà vu, vous voyez assez mal, qui est une vue du soir, c'est-à-dire au moment où les ombres de la place de la cathédrale, donc il y a la façade de la cathédrale, et en face, il y a des maisons. Et quand le soleil se couche, finalement, l'ombre des maisons va tomber sur le parvis et remonter sur la façade de la cathédrale. Donc, toute la partie bleutée qui est dans le bas de la façade, ce sont les ombres des maisons qui sont en face et qui remontent sur la façade à partir de 5 heures du soir l'hiver. Donc c'est une vue de temps de beau temps, puisqu'on voit que le ciel est encore très bleu. Et on voit comment Monet procède, c'est-à-dire par exemple sur la première image que vous voyez là, on voit dans le fond des couches assez fluides de peinture bleue sur lequel il va revenir très vite avec une autre couleur qui est la couleur du bois de la porte. Et après, s'il avait continué, sans doute il aurait encore rajouté quelque chose. Mais là, il s'est arrêté. Et là, on voit dans la partie supérieure également le même travail. Une première couche assez fluide, puis des empattements. Et on sent une sorte de tâtonnement. Monet ne veut pas figer ses formes. Et donc, il va toujours travailler en gardant une sorte d'espace pour favoriser une variation d'effets. Là, vous voyez une cathédrale qui est magnifique, qui est conservée au Metropolitan Museum à New York, et qui est l'une de celles que Monet a peintes relativement rapidement. Mais elle est considérée évidemment comme achevée, elle est signée et datée. Et vous voyez dans la partie supérieure, donc sur ce cliché-là, des empattements très vigoureux, très en relief. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez que la préparation est encore visible entre le bleu et les empattements du haut du pignon. Et ces restes de préparation s'appellent dans le jargon des peintres et surtout des restaurateurs des réserves. Donc les peintres impressionnistes travaillent beaucoup sur ça, c'est-à-dire qu'ils jouent sur la couleur de la préparation pour laisser comme ça des parties non peintes et qui vont donner une sorte d'harmonie colorée générale à l'œuvre et qui vont aussi jouer sur l'effet de matte et de brillance. Les empattements à l'huile sont brillants et le sont encore de nos jours, et la partie non peinte, donc où l'on voit la préparation, reste matte, et ces effets de matte et brillance vont ajouter des effets de vibration et des effets aussi de proximité et d'éloignement. Donc c'est très très important de maintenir ça, et en tant que restaurateur c'est très important parce que on sait que les vernis, quand les tableaux ont été vernis, on cache ces effets-là. Et en plus du jaunissement du vernis, on enlève ce que le peintre a voulu, c'est-à-dire cet effet de matte et de brillance. Et que reprendront beaucoup les nabis aussi, et toute la peinture d'ailleurs contemporaine ensuite. Là, je vous montre un exemple de plusieurs touches que Monet a utilisées pour faire ses cathédrales, pour peindre ses cathédrales. Et on voit, j'espère que vous le voyez bien, on voit la diversité des touches. On passe de touches comme celle du centre assez étalée, où le pinceau, où on voit la marque du pinceau, à des touches beaucoup plus vibrantes, posées en relief, comme dans cette image à droite, où on voit bien les reliefs de la matière. Et à des effets de superposition, comme les deux qui sont tout en haut, ou des effets de tout petits points. Vous voyez là, Monet a utilisé vraiment la pointe de son pinceau pour poser des toutes petites touches qui viennent se surajouter à déjà tout un ensemble de touches qu'il a, qui constituent sa peinture. Et là, je vous ai montré juste un exemple de signature sur une peinture qui est au musée d'Orsay, le temps gris. Là, je vais vous montrer quelques exemples de cette matière très différente. Je commence par des tableaux où l'on sent que Monet a été assez vite et où justement il a laissé ses réserves. Donc c'est toujours la cathédrale de Rouen du portail soleil, en plein soleil, du Metropolitan Museum. Donc Monet a peint plusieurs cathédrales exactement ou quasi au même moment, c'est-à-dire en tout début d'après-midi, où le soleil vraiment frappe la façade et où il reste juste des ombres à l'intérieur du portail central et où on voit aussi une grande ombre sur le côté qui est l'ombre du pilier, qui est lui non peint. Et on voit bien à quel point Monet a été vite et se sentait à l'aise dans cette lumière-là. Je vous montre un détail donc de cette ombre sur le portail à droite et également un détail des arcades, où l'on voit la diversité des touches. Et sur l'image du haut, on voit bien ces petites touches bleues rajoutées au dernier moment pour faire vibrer la surface. Toujours la cathédrale du Metropolitan Museum, il faut dire qu'elle est vraiment très très belle. Et vous voyez en haut un détail de la gargouille avec l'ombre portée bleue. Donc qui part en diagonale, la lumière qui est au-dessus de la gargouille et en dessous l'ombre propre de la gargouille qui est juste brune. Enfin brune, dans le... Je pense que Monet n'utilisait pas de brun. Quand il voulait faire un effet de brun, il mélangeait généralement du bleu et du rouge. On le reverra peut-être tout à l'heure sur le portail vu de face. Et vous voyez également un détail du bas du pilier et avec cette lumière très blanche que vous retrouvez à peu près sur quasi toutes les cathédrales. Et je me suis posé la question, je me suis demandé pourquoi il y a cette lumière, quelle que soit finalement l'atmosphère, il y a toujours une tache très blanche sur ce pilier du bas. Et je me suis rendu compte en regardant une photographie de la cathédrale de Rouen quand Monet l'a peinte à la fin du 19e, que la pierre à cet endroit-là était particulièrement altérée, ou du moins, enfin, altérée, je pense qu'elle était altérée puisqu'elle était ravinée sans doute, et du coup on voyait la vraie couleur de la pierre, puisqu'il ne faut pas oublier que Monet en 1892 et 13, donc au moment où il peint cette façade, La cathédrale était en très piteux état et ce n'est que quelques années plus tard qu'elle a été restaurée. Donc il y a du lichen sur les sculptures sont cassées et la pierre est très noire, ce qui peut paraître un peu fou quand on voit les couleurs que Monet a utilisées pour peindre ses tableaux. Et là on voit bien donc sur les deux piliers et même celui qui est à gauche, on voit bien ces taches blanches que Monet a donc reproduites en peinture. Donc là, je vous montre une cathédrale complètement différente de celle du Metropolitan Museum. C'est une cathédrale qui est conservée à Boston. À Boston, ils ont deux cathédrales, donc, dont celle-là. C'est un moment très particulier que Monet a peint, c'est juste aux alentours de midi. C'est-à-dire que la façade n'est pas encore éclairée par le soleil directement, c'est juste avant celle qu'on a vue précédemment. Donc elle reste encore un peu bleue. Mais par contre, il y a toutes les parties de l'architecture qui viennent en avant, qui commencent à être éclairées par la lumière oblique du soleil. Donc vous voyez les piliers qui commencent à être les parties saillantes qui commencent à être éclairé. Et le parvis de la cathédrale, à ce moment-là, est baigné de soleil. Vous voyez, le ciel est très bleu, donc c'est vraiment un temps très beau. Donc le parvis est baigné de soleil et la lumière reflétée du parvis va modifier l'éclairage de la façade. Et tout ce que vous voyez de couleur un peu orangée, c'est le reflet, c'est la couleur du reflet du parvis. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, mais sur le revers d'une cathédrale qui a voyagé aux États-Unis en 1896, Monet a fait une deuxième exposition après celle de Durand-Ruel en 1895. Il y a un certain nombre de ces cathédrales qui sont parties aux États-Unis. Et au revers, sur le châssis, il y a des titres qui ont été donnés par Monet lui-même, donc on voit son écriture. Et il y a écrit justement lumière reflétée. Et donc c'est bien ça, j'ai essayé de comprendre et je me suis dit, ben oui, bien sûr, c'est le parvis qui est baigné de soleil et la lumière du parvis va se refléter dans le creux de cette architecture. Et Monet en a fait ça d'une façon magistrale. Et il y a 5 cathédrales parmi les 30 actuellement répertoriées que je vous ai montrées tout à l'heure qui présentent cette particularité. C'est vrai que quand on va voir la cathédrale de Rouen à l'heure actuelle, à cette heure-ci, on a beaucoup de mal à faire la distinction entre la lumière reflétée et la lumière du soleil. Mais ça, c'est le génie de Monet qui a pu, comme ça, décomposer ces différentes lumières. Et là, vous voyez à quel point la matière est épaisse et on ne voit plus du tout de réserve. Monet a retravaillé, parce qu'il voulait absolument obtenir un effet. Son obsession, c'était d'arriver à représenter l'effet qu'il ressentait devant la façade. Et s'il fallait mettre du temps, il mettait du temps. Et s'il fallait rajouter de la peinture, il en rajoutait. Et donc là, il y a vraiment une couche très épaisse de peinture, mais toujours avec ce même système, c'est-à-dire en rajoutant des touches, soit en relief, soit par petits points. Et là, on voit dans la diapositive, dans la photo du bas, justement encore ces petites touches qui rajoutent en dernier de couleur pure, comme ce bleu de cobalt qu'on voit, la petite touche de bleu de cobalt que l'on voit posée sur un des piliers. Donc une autre cathédrale qui lui a aussi sans doute demandé pas mal de temps, avec beaucoup de reprises, c'est cette magnifique cathédrale Tangri du musée d'Orsay, qui est vraiment extraordinaire. Évidemment, les photos ne rendent rien, et encore une fois, il faut vraiment aller voir les œuvres et les voir longtemps pour pouvoir les comprendre, où il y a des nuances de violet incroyables, et où on distingue très très bien l'architecture. C'est une des cathédrales où il y a une grande netteté dans la définition de tous les détails d'architecture, de toutes les sculptures. Et là aussi, je me suis posé la question de savoir mais pourquoi Monet dans cette lumière là a été aussi précis. Et il suffit encore une fois d'aller à Rouen et de voir la façade de la cathédrale dans ces temps gris d'hiver rouennais où finalement il y a une luminosité très très grande, et comme la façade n'est pas écrasée par le soleil, toutes les nuances sont visibles et les sculptures sortent très bien. Donc là aussi, Monet a toujours un souci d'être au plus juste de ce qu'il voit. Donc là, vous voyez cette surcharge de matière, et jusqu'à obtenir, comme vous voyez dans la porte du bas, jusqu'à obtenir une matière qui est quasiment lisse et qui est tellement surchargée qu'on trouve des sortes de petits points, des petits trous presque d'aération de l'huile, de la peinture à l'huile. C'est très particulier comme matière, et Monet lui-même s'étonne de ce qu'il fait et de ce qu'il obtient. Et je vais juste vous lire une lettre qu'il écrit à sa femme Alice le 4 avril 1893. Il est toujours désespéré de ce qu'il fait, il est très souvent mécontent de ce qu'il fait. Et là, il arrive au bout de sa deuxième campagne et il lui écrit « Ce matin, je n'y étais pas du tout, mes affaires dispersées, en désordre, et la vue de mes toiles qui m'ont paru atroces, l'éclairage changé, bref, je ne pourrais arriver à rien de bon. C'est un encroûtement, un entêté de couleurs et voilant tout, mais ce n'est pas de la peinture. » Donc, je pense que quand il parle d'encroûtement entêté de couleurs et que ce n'est pas de la peinture, il parle de ces cathédrales sur lesquelles il s'est acharné pour obtenir l'effet qu'il cherchait. Donc là, je vous montre un ensemble de détails, toujours le même, de la petite gargouille qui est juste en haut, à droite, enfin ça ne vous donne pas grand chose comme indication, et où vous voyez donc ces gargouilles et ces différents effets de matière, donc dans la première qui est là, qui doit être, je ne sais plus, je pense que c'est celle de Washington, mais je ne suis pas sûre, je ne vous ai pas mis à chaque fois les noms parce que c'était un peu long, fastidieux à faire et ça n'a pas grand intérêt, mais là on voit donc cette matière avec des empattements en relief, très virtuose. La même chose pour celle d'à côté, là c'est celle qui est au Getty, qui est un matin, et où on voit la première couche, plus diluée, plus fine, sur laquelle il y a un empattement assez important. La même chose pour celle d'à côté, qui est à Weimar. Et ça, c'est une cathédrale qui a une matière très particulière que je n'ai pas vue sur les autres. C'est une cathédrale qui est au musée d'Orsay, qui est une cathédrale plein soleil, qui est magnifique aussi. Et où c'est une matière indéfinissable, qui n'est pas très surchargée, mais qui est très... En petites touches un peu nerveuses et où on voit bien la distinction entre la partie éclairée en surface et la partie à l'ombre, toujours avec les ombres bleues de Monet. Et les deux dernières sont des peintures très encroûtées, pour reprendre l'expression de Monet. Donc celle-là est une œuvre qui est au Clark Institute à côté de Boston. C'est une matière très très chargée, et une autre qui est une cathédrale du soir, qui est à Cardiff, une très belle cathédrale tout en rose et avec un ciel presque vert, où on voit cette matière où Monet ne laisse plus du tout de place aux réserves. Donc je vais vous montrer un autre exemple, toujours sur le même principe, donc de différentes cathédrales avec différentes matières. Bon, c'est vrai que là, on voit assez mal. Et c'est la rose avec juste le début du gable central, où on voit cette manière différente de travailler la matière. Et enfin, comme autre exemple de différentes matières, c'est ces horloges. Donc la cathédrale de Rouen en 1892 et en 1893 avait encore cette horloge centrale qui avait été posée au 18e, donc c'était un grand cadran qui a été retiré au moment de la restauration de la façade au début du siècle, au début du 20e siècle, et qui a été mise à un autre endroit dans Rouen, puis détruite pendant la guerre, donc on peut même plus voir à quoi elle pouvait ressembler. On a juste les photographies comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc c'était un assez gros cadran tout rond, et Monet l'a représenté de différentes manières selon le moment de la journée. Mais j'ai pas réussi à trouver une logique selon les moments. Parfois il fait un centre coloré en rose ou en jaune ou en orange. Il définit des différents cercles ou juste c'est assez variable et on comprend pas toujours. Dans le premier, donc, c'est une cathédrale de Washington, donc toujours plein soleil de l'après-midi, où Monet met un gros empattement très très en relief, et à côté, vous le voyez mal, mais il y a vraiment des effets de réserve. Ensuite, c'est la cathédrale dont je vous parlais, plein soleil du musée d'Orsay, avec cette matière un peu presque sautillante que j'arrive pas à définir. Là, c'est une cathédrale qui est à Weimar, qui est très belle, une cathédrale du matin. Et là, on voit les cercles concentriques beaucoup plus définis, un peu uniques dans la série des cathédrales. C'est l'horloge de la cathédrale portail vue de face, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Ça, c'est celle de Boston, que je vous ai montrée déjà, et celle de Cardiff, donc du soir. Et vous voyez bien celle de Cardiff, à quel point la matière est épaisse. Donc je me suis un peu perdue. Je vais revenir à... Mais la conclusion de cette première partie, c'est donc de dire que Monet a peint ses cathédrales avec le même processus, la même énergie de création, mais il s'est arrêté à différents moments en fonction de ce qu'il... ce qu'il estimait être au plus proche de ce qu'il voyait. On pourrait croire, quand on parle de série, que tous les tableaux arrivent, se finissent à un certain stade, et que le peintre a voulu qu'il y ait une unité dans leur aspect. Ça paraît comme ça assez logique, et ça serait, mais c'est pas du tout dans la logique de Monet. Monet n'a pas eu ce souci-là. Il a eu le souci d'être au plus juste de ce qu'il voyait, c'est tout. Une autre chose que j'ai pu remarquer au cours de mes observations et de mes différents voyages, c'est que Monet a changé de composition. Sur certaines cathédrales, on voit différentes compositions. Il a transformé, non seulement il a superposé, mais il a aussi modifié l'emplacement des éléments de la façade. Donc là, vous voyez par exemple sur celle de Weimar, vous voyez un deuxième cercle un peu en dessous. C'est ce deuxième cercle, c'est des empattements sous-jacents qui se voient encore. Donc Monet a posé d'abord son horloge un peu plus en bas et à droite, et puis il s'est dit que ça n'allait pas, il voulait changer, et il l'a repositionné un peu plus haut. Et il n'a pas cherché à retirer ses empattements, il les a gardés, et du coup maintenant on peut voir ce premier travail à partir de ces empattements. Et on voit sur celle qui est à Rouen, puisque le musée de Rouen conserve une cathédrale, donné par le collectionneur Depau, qui est arrivé très tôt donc au musée de Rouen, et on voit la même chose. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur de la rose des empattements qui sont en diagonale et qui sont aussi en verticaux et qui reprennent ce que l'on voit au-dessus. Et puis aussi des empattements qui reprennent l'arrondi de la rose. Donc pour je vais vous donner comme exemple ce fameux portail vu de face que j'ai eu l'occasion de restaurer l'année dernière. Donc c'est un tableau un peu original dans la série, parce que déjà c'est le seul qui est vu véritablement de face. Et puis sa matière aussi est particulière, son travail est particulier. C'est une cathédrale, on n'a pas su à quelle heure Monet a pu peindre ce tableau, puisque c'est par temps gris. Mais là aussi, comme pour le temps gris dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi au musée d'Orsay, on voit y a une grande définition dans le détail des sculptures. Donc cette cathédrale a comme particularité d'avoir été agrandie par Monet lui-même en cours de traitement. Par une bande horizontale de 6 cm. Donc au début, Monet a peint sur un format 40 paysages d'un mètre par 73. Et puis, en cours de route, il a rajouté cette bande. Il a demandé à un marchand de couleurs ou à un restaurateur de faire ce travail. C'est un travail très soigné, très bien fait. Et je ne pense pas que ce soit Monet lui-même qui se soit chargé de ça. Et du coup, évidemment, on s'est posé la question avec le laboratoire du C2RMF qui a fait des radios et des lumières rasantes de ce tableau. Pourquoi et comment Monet a changé son format. Donc là, déjà, vous voyez, donc là, j'ai mis en bleu la ligne d'agrandissement, et vous voyez bien les empattements sous-jacents qui sont verticaux, comme ça, et qui disent que Monet a d'abord peint la cathédrale un peu décalée par là, et que le pilier qu'on voit en blanc était, dans un premier temps, plus à droite. Donc le tableau a été radiographié. C'est toujours compliqué d'analyser les radios de Claude Monet et de la série des cathédrales, parce que Monet a peint avec beaucoup de blanc de plomb. Donc il y a toujours une confusion et c'est assez difficile à lire par rapport à d'autres œuvres où on voit vraiment des choses pertinentes. Là, il faut un peu combiner avec d'autres observations, dont les lumières rasantes. Mais on voit quand même à l'intérieur de vous voyez la ligne qui passe dans l'horloge et qui était donc l'emplacement de ce gable qui était légèrement à droite. Donc là, je vous montre également les lumières rasantes qui ont été faites donc par le laboratoire du C2RMF, où l'on voit nettement aussi toutes les empattements sous-jacents. Et à partir de cette observation, on a pu recomposer un peu la genèse de cette peinture. Donc je vais essayer de vous expliquer, parce que ce n'est pas forcément si clair que ça. Donc en violet, Monet a peint d'abord sur une première toile plus petite, moins haute. Donc vous imaginez que la bande du bas n'existait pas. Et il a peint sa cathédrale légèrement décalée sur la droite. Donc il n'a absolument pas cherché, en peignant la cathédrale, la façade vue de face, une symétrie. Il a commencé à travailler comme ça. Ça lui a pas plu. Il a rebasculé un peu vers la gauche sans obtenir non plus une symétrie parfaite, puisqu'il y a toujours cette bande de ciel à gauche en haut. Donc il a travaillé toujours sur ce format. Vous voyez les lignes jaunes qui correspondent à cette deuxième composition. Et toujours mécontent, il s'est dit finalement, mon problème, ça doit être un problème de hauteur. Et il a demandé à rajouter cette bande de 6 cm vers le bas. Et il a allongé ses formes. Donc il a gardé la même composition. Il n'a pas rebasculé ni vers la gauche ni vers la droite, mais il a allongé les formes. En allant à Rouen et en essayant de comprendre un peu la vue qu'il avait face à cette façade, on peut voir de quelle fenêtre il a peint ces deux compositions. Donc le petit point bleu correspond à la première composition qui est dessinée en violet. Donc il s'est d'abord positionné là, et ensuite il a été dans la fenêtre au petit point rouge où il a fait ses deux autres compositions. Parce que l'immeuble de la Grande Fabrique est là où il a peint en 1892 pour faire ce tableau, entre autres, existe toujours. C'est maintenant un magasin Etam et ils m'ont donné la possibilité, j'ai eu la possibilité d'aller dans cet appartement qui est d'ailleurs assez abandonné. C'est assez émouvant de se retrouver à l'endroit où Monet a peint. Mais à la limite, ça reste quand même anecdotique de savoir à quelle fenêtre il était. Le plus intéressant, en voyant ces empattements sous-jacents, c'est de se rendre compte que Monet ne cherche pas à retirer cette première composition. Il peint par-dessus. Et pour un peintre dit de l'instantanéité, ça peut paraître un peu paradoxal d'accumuler comme ça de la matière sans chercher à repartir à zéro pour donner un effet virtuose d'un instant donné. Et il en a plusieurs fois parlé. et entre autres au duc de Trévise, à la fin de sa vie, le duc de Trévise est venu à Giverny pour interroger Monet, et le duc de Trévise raconte ce que Monet lui a dit. Donc je vais vous le lire, c'est pas très long. Donc c'est Monet qui parle, à travers le duc de Trévise, hein, évidemment, c'est des propos rapportés. C'est que Manet était très difficile pour lui-même. Il avait un métier pénible et soigneux. Il voulait toujours que son tableau eût l'air fait du premier coup. Mais souvent, le soir, il grattait avec son couteau à palette ce qu'il avait fait toute la journée. Pas tout, si vous voulez, mais l'empattement. Il ne gardait qu'un dessous, d'un grand agrément et d'une grande finesse, sur lequel il improvisait à nouveau. Moi, je n'ai pu prendre tous ces soins. Il y a des choses de moi qui étaient bien au début du travail, puis s'abîmaient, puis redevenaient bien à force de correction, mais sans que j'aie jamais supprimé les premières couches. Donc lui-même le dit, sans vraiment expliquer pourquoi, mais c'est vrai que du coup, dans cette troisième dimension que crée la matière d'une œuvre, il y a comme la mémoire de son travail. Et Monet, finalement, peint plus le temps qui passe devant son motif que réellement un instant donné, une instantanéité d'un instant figé. Il y a toute une histoire dans ses peintures et qui retrace le temps passé sur le motif. Donc voilà. Il est 16h10, je ne sais plus combien de temps j'ai. Je crois que ça 16h15 que je finis. Oui. Donc on va peut-être, si vous voulez, j'ai encore quelques photos. Je peux vous les montrer. Je voulais aborder un autre sujet qui est assez compliqué, qui est sur le rapport de proximité et d'éloignement. Comme je vous l'ai déjà montré, c'est assez caractéristique de cette peinture. Et au moment de l'exposition de 1895, beaucoup de critiques ont été très étonnées du fait que de près, la peinture, on ne comprenait rien. Et quand on s'éloignait de quelques mètres, tout d'un coup, tout se mettait en place et il y avait une structure de la cathédrale qui apparaissait et qui était très solide. Donc je vous montre juste quelques exemples. Donc là, vous voyez par exemple dans la cathédrale un portail Tingry du musée d'Orsay, ces petites figures de sculptures qui de près sont difficilement compréhensibles et de loin se voient immédiatement. La même chose pour la gargouille dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou alors dans cette peinture dont je vous ai parlé aussi, le soleil du musée d'Orsay, ou cette matière particulière, où là, c'est encore ces petites figures qui, de près, sont difficilement compréhensibles. Et plus on s'éloigne, plus elles se comprennent. Donc là, je vous ai montré ces exemples-là. Et moi, je l'explique par le fait que Monet peint essentiellement en valeur, c'est-à-dire qu'il cherche à représenter les intensités lumineuses, et ce travail lui permet d'obtenir ces effets de volume. Mais ça sera pour une autre conférence. C'est un peu long à expliquer comme ça. Sinon, je peux juste vous lire encore choisi au hasard, un des critiques donc, qui parlait de cette matière. Assurément, c'est de la sorcellerie. Vu de près, la toile semble, dans les cathédrales surtout, une palette surchargée de couleurs, zébrée au hasard du couteau ou du pouce. Il n'a pas utilisé du tout le couteau ni le pouce, Monet, mais c'est pas grave. De taches confuses, de bavures rouges et vertes, jaunes et bleues, informes et lourds barbotages barbiolés. Éloignons-nous lentement et voici que le mélange optique des couleurs se produit, la confusion s'ordonne, les lignes apparaissent, et comme dans un miroir magique, l'image sort du chaos et s'harmonise dans sa grâce et sa simplicité. Donc voilà, je finis là-dessus.